Le coaching est un art. Nous vivons une époque baignée dans le folklore. Je ne parle évidemment pas du folklore régional, où on se vêt d'habits traditionnels et où l'on joue une musique ancestrale pour faire honneur à nos ancêtres. Ni des langues d'oc, de Bretagne, basque et d'ailleurs, qui font la richesse de nos régions et de notre pays. Je ne parle évidemment pas non plus de la musique folklorique et de ses compositeurs originaux et très souvent talentueux. Alan Stivell et autres Dan Ar Braz résonnent en moi et font vibrer ma mémoire et mes entrailles bretonnantes. Non, je parle de ce folklore de pacotille qui reprend quelques tendances populeuses et qui les galvaude au point de les rendre totalement indigestes. Je pense par exemple, au développement personnel et à tout son cortège d'adeptes de l'introspection, du bouddhisme exacerbé, de la méditation transcendantale. Bien plus transcendantale que méditation d'ailleurs. Je n'ai évidemment rien contre le bouddhisme et la méditation transcendantale, je suis même parfaitement en accord avec cette philosophie. Cet art de vivre, cette religion et ses pratiques. L'indigestion provient de l'appropriation folklorique de toute cette tranche de la population, modulable à souhait, qui s'invente une spiritualité factice et débordante. Depuis quelques années, des vocations se sont créées par millions et de façon exponentielle. Subitement, les dépressifs sont devenus spirituels. Après avoir rangé le Prozac sous l'oreiller, on ne sait jamais, gardons-le à proximité, et avoir lu un livre de Paulo Coelho ou d'Eckhart Tolle, ils montent des cabinets de consultation et vous donnent des leçons métaphysiques sur qui vous êtes et quelle est votre quête existentielle. Ils ou elles savent mieux que vous ce que recèle le plus profond de votre esprit. La tendance actuelle, la mode actuelle, devrais-je dire, tournée vers le bien-être mental et spirituel, n'est pas ici une affaire de sacerdoce, ni d'illumination. Une mode, ni plus ni moins. L'engouement général du moment a pris possession des âmes fragiles, comme pour acheter une paire de chaussures ou un nouveau pantalon, rien de plus. La philosophe Julia de Funès a une vision intéressante de ce phénomène au travers de son dernier ouvrage, Développement impersonnel, dont vous trouverez le lien dans mon article. Elle n'est pas critique avec ses coachs, contrairement à moi, mais elle souligne plutôt le côté illusoire des démarches désespérées de leurs adeptes, qui asservissent plutôt qu'elles ne libèrent. De mon point de vue, nous sommes au niveau zéro. Des âmes errantes tentent de sauver d'autres âmes errantes. Tout le monde finira par se retrouver au même endroit. D'ailleurs, les courbes vont dans le même sens. Elles sont désespérément croissantes. Il y a de plus en plus de spécialistes du développement personnel censés vous faire du bien et de plus en plus de gens en dépression. Tout comme la prévention contre le surpoids qui semblerait, vu les statistiques, le faciliter. Ferions-nous fausse route? La musculation ne fait pas exception à cette règle de la folklorisation. Le coaching est devenu tendance, donc les coachs prolifèrent et poussent comme le chien d'an. Comme on peut l'imaginer, une telle affluence est rarement gage de qualité. Plus on surproduit et plus l'excellence décroît. La réalité dépasse très souvent la fiction et même la fonction, à l'instar d'autres professions dont l'essor est croissant. Il me vient à l'esprit l'ostéopathie ou les wedding planners. Bon, deux secteurs d'activité très différents, certes, mais tout aussi fournis en concurrence et tout aussi parachutés les uns que les autres par la ferveur ambiante. Finalement, ne sont-ils donc pas victimes de l'engouement du moment, parfois peut-être de leurs ambitions arrogantes, surévaluant leurs capacités? Bon, les coachs ont tout bien appris et intégré, la bioméca, la physio, comment construire un programme et l'insérer dans une logique de planification. Comment faire de l'hypertrophie? Comment travailler la force? La théorie a été parfaitement étudiée pour développer telle ou telle qualité physique. Mais dans la pratique, qu'en est-il? Eh bien, dans la pratique, quasiment tout sera remis en cause. Après bientôt 40 ans d'encadrement, je n'ai jamais vu un programme d'hypertrophie théorique fonctionner. Je peux d'ailleurs affirmer que rien de conventionnel ne fonctionne vraiment. Pourquoi la théorie ne marche pas? Bon, j'exagère un peu. Elle marche, mais ne se suffit pas à elle-même et fonctionne que sous certaines conditions. La progression est plurifactorielle et totalement conditionnée. Évidemment par les capacités physiques personnelles, mais principalement par l'état d'esprit. Par état d'esprit, j'entends désir, motivation, conditionnement, conscientisation, focalisation. Là réside le secret. Peu importe quels sont les objectifs, qu'ils soient esthétiques ou d'ordre de l'amélioration des qualités physiques ou même de la santé, l'encadrement est un mélange subtil, une alchimie fine qui devra compter majoritairement avec la chose métaphysique. Cette symbiose doit tenir compte avant tout de l'individu et si peu des connaissances institutionnelles qui devront être mises en application. À ce titre, une cartographie pour une meilleure connaissance de l'élève doit être établie. Je vous envoie d'ailleurs vers l'un de mes articles qui en dresse les contours, dont vous trouverez le lien. Le programme d'entraînement parfait. La technique représente bien peu de choses par rapport au message qui doit être enseigné. La transmission est certes fondamentale, mais elle ne peut être acquise seulement si le discours est audible. Audible et adapté. Non seulement l'adaptation pleine et entière du coach est nécessaire, il doit se mettre à la portée de son élève. Mais de plus, l'intégration du message doit être totale. La progression, l'évolution physique est un jeu d'équilibriste pour le coach. Il n'y a finalement rien de rationnel. Le coach ne peut pas être une sorte d'hybride, mélange de gentil organisateur, de compteur de répétition et de porteur de serviettes. Dans ces conditions, il ne se passera rien, ou en tout cas, pas grand-chose. Le coach doit être un psychoanalyste, capable de comprendre les rouages de la mécanique cérébrale de son élève. Il a également le devoir d'être une source de motivation, capable de susciter le désir qui pourrait parfois faire défaut. Il doit être bien sûr un expert technique capable de proposer les bons exercices, la solution appropriée au bon moment, dans les meilleures conditions. De plus, il doit maîtriser parfaitement les paramètres d'intensité, ce qui devrait être pour moi une nécessité première et qui, malheureusement, est rarement le cas. Je vous engage Je vous encourage, une fois de plus, à télécharger mon e-book gratuitement, bien sûr, où je décris tous ces paramètres d'intensité. Vous trouverez le lien dans mon article, les 10 règles essentielles pour progresser après 40 ans. Mais même avant 40 ans, ces règles sont essentielles. Je fais un constat pas très heureux sur cette profession. Pour beaucoup, le coaching est devenu une voie de garage, pas un sacerdoce, pas une philosophie de vie. On devrait s'engager dans ce métier comme dans une profession de foi, et non pas parce que c'est la tendance sur les réseaux sociaux, ou non pas parce qu'on a foiré ses études de droit ou de médecine. Comprenez-vous? Je vous engage à lire et à relire mon article un peu corrosif sur la profession, dont vous trouverez également le lien dans cet article. Comment savoir en 10 points si mon coach est bon? Ce que je vous explique vous semble logique. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.